les choses ne vont pas du tout bien parce qu'elles viennent circuler dans le village, poser des questions, forcer les gens à les écouter, faire leur prêche. Ils enlèvent même certaines personnes.
Le terrorisme, il harcèle la population civile même. Quand ils n'attaquent pas, les gens ils viennent dans les villages. Bon, ils leur parlent un peu de religion, ils qualifient l'État de mécréants pour montrer qu'eux, ils veulent la vérité. Ils sont nombreux, c'est ça, ils sont nombreux, ils arrivent en moto. Tout se fait à moto.
Quand les bandits viennent, ils enlèvent les jeunes pour les enrôler. Ils les proposent des sommes jusqu'à 500 000, 600 000. Des fois, là, ils disent que c'est par semaine qu'ils les donnent les 500 000.
Le 2 janvier, le Niger connaissait l'un des plus importants massacres de civils de son histoire récente. 100 personnes tuées par des terroristes dans la région de Tillabéri. Depuis plusieurs années, cette région du sud-ouest est en proie à une insécurité croissante. Le IGS, l'État islamique dans le Grand Sahara, y a élu domicile. Il administre parfois des pans entiers de territoire, contrôle les routes, prélève la zakat, cette aumône inscrite dans le Coran, et transformée en impôt par les terroristes. Tillabéri, le Niger à la reconquête d'un territoire perdu. C'est un grand reportage de Gaël Lalex.
La région de Tillabéri, frontalière avec le Mali au nord et le Burkina à l'ouest, est devenue le théâtre d'une insécurité croissante. Terroristes, djihadistes, groupes armés, bandits, voleurs de bétail, autant de mots pour qualifier une menace aux contours indécis, mais pourtant omniprésente. C'est grâce à la HACP, la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix, institution nigérienne, que nous nous rendons dans cette région. Chacun de nos déplacements sera escorté de 3 pick-up avec 8 soldats pour protéger nos interlocuteurs. Leurs noms ainsi que celui des localités visitées resteront cachés.
Il y a beaucoup de monde, hein ? C'est bon ? On peut aller ?
Ce matin-là, la HACP organise dans ce village un forum citoyen. Le thème : rétablir la confiance entre les populations et les FDS, les forces de défense et de sécurité. Car dans cette guerre asymétrique, l'armée nigérienne a le plus grand mal à obtenir du renseignement. Les chefs de village prennent la parole.
Les communautés ont peur des FDS. Les habitants ont peur de l'homme qui porte les tenues.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il se rappelle vraiment du temps où les tenues font des représailles sur les communautés pour les impôts, pour les infractions ou autres. Et les populations, ils donnent l'alerte. Mais les FDS n'arrivent pas à temps. Parce qu'il faut qu'ils s'organisent. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de route, il n'y a que des pistes et les pistes sont très mauvaises.
Pour ce qui est de la sécurité ici, quelle est la situation ?
En tout cas, en tout ce qui concerne l'Ouest, et l'Ouest, c'est la partie la plus grande d'ailleurs, qui est vraiment totalement rouge. Il n'y a pas de route. Et cette région est tellement boisée. Et les djihadistes, mais il y a beaucoup aussi qui ne sont que des bandits. Et ces bandits-là sont vraiment des autochtones. C'est pourquoi les autres se dissimulent très rapidement dans les populations. Ils déposent les armes, ils enlèvent les tenues. Maintenant, ils sont des populations autochtones.
Le Tillabéri s'étend sur près de 100 000 km², traversé de plusieurs cours d'eau et doté de quelques routes seulement. Il faut parfois plusieurs heures au FDS pour intervenir après une attaque. Pour les populations, les militaires semblent loin et la menace omniprésente.
Je tiens à vous dire la vérité aujourd'hui, rien que la vérité, en tant que chef du village. Si les gens reçoivent l'information, s'ils donnent ça au FDS, le gars sera poursuivi.
Mais poursuivi par qui ?
Seront poursuivis par les djihadistes, par les bandits. C'est la peur. Parce que bientôt, après la réunion, là, tout le monde va à la maison. Et tout le monde va à la maison. Finalement, la nuit, il n'y a personne. Il n'y a pas de sécurité. Tu dors, toi, seul dans ta chambre. Et c'est la crainte, c'est la peur où maintenant les gens refusent de donner l'information pour ne pas être ciblés et enlevés.
Mais comment font les bandits ou les terroristes pour savoir qui est un informateur qui parle?
Le terroriste, et voilà le problème. Ils ont des éléments là-bas, partout, qui leur donnent des informations. Même aujourd'hui que vous êtes là, ils sont informés. Ils sont informés que vous êtes là, hein, qu'on est là. Vraiment, c'est ça.
Cette crainte des populations à leur égard n'est pas toujours admise par les militaires, comme ce lieutenant présent au forum.
Bon, peur, non. Peur de parler, non. Moi, je dirais que non. Parce que pour avoir peur de quelqu'un, ça veut dire qu'il est répressif ou il est méchant. Or, ce n'est pas le cas. Et nous les accueillons toujours. Nous faisons des actions civilo-militaires pour créer la confiance avec ces populations. Peut-être souvent, nos actions ne sont pas comprises par cette dernière qui nous accuse d'une lenteur. Or, ce n'est pas du tout la lenteur à notre niveau, mais la prudence et puis pour être efficace lorsque nous allons intervenir.
Mais ils ont peur de parler, ils ont peur des représailles.
La peur, elle peut s'exprimer, oui, mais néanmoins, on n'a pas baissé les bras. Nous faisons en sorte même que ces renseignements qu'ils nous transmettent ne nous parviennent pas par les GSM. Il se peut qu'à l'écoute, on peut prendre cette personne, tout de suite fouiller son téléphone, voir qu'elle a contacter un numéro inconnu et voyez tout ça. Mais nous créons des cadres de confiance et de sécurité où nous pouvons nous mettre en contact avec notre source sans qu'elle ne soit exposée et sans qu'elle ne soit en danger une fois en retour à la maison.
Les réseaux de télécommunications sont au cœur de la stratégie des groupes armés. Les antennes sont toujours les premières cibles des attaques. Et dans les périodes de trêve, en revanche, ils communiquent énormément sur les réseaux sociaux. Ce jeune de 25 ans reçoit, comme tout le monde, régulièrement des messages.
Il y a beaucoup de messages des bandits qui circulent dans les groupes WhatsApp. Même après les attaques, souvent ils lancent les images sur les réseaux sociaux. Ils ont leur compte. Ils envoient les vocaux et des vidéos sur les réseaux sociaux, par exemple. Et les gens prennent, ils distraient le vocal pour lancer dans les groupes. Ils vont utiliser les gens pour le faire à leur place, sans qu'on ait conscience de cela.
Et les jeunes, ils sont sensibles à ces images, à ces messages?
Surtout les jeunes qui vivent dans les zones rurales, ils sont sensibles. Il y a beaucoup qui les ont regagnés. Ils n'ont pas de travail. C'est la pauvreté, c'est ça qui les pousse à aller.
Est-ce que ça paye bien de rejoindre les brigands?
Oui, parce qu'il y a un jeune, d'après ses témoignages, il a dit, il y a certains groupes terroristes pour rentrer, ils te donnent 5 millions. Après, chaque mois, tu as un salaire de 300 000.
Vous croyez que c'est réel, ça?
Non, c'est réel.
Mahamad Abou, préfet du département de Torodi. Ce n'est pas qu'on voit des grandes armées de terroristes se mouvoir, mais c'est qu'à n'importe quel point du département peut surgir un groupe de bandits armés d'armes de guerre et qui sont souvent prêts à agir et qui ont eu à agir. Ici, ils ont opté pour un enrôlement local. Et c'est ça qui fait notre grande inquiétude. Beaucoup d'enfants qui agissent sont bien des enfants du terroir. Jusqu'ici, nous n'avons pas pris, par exemple, des enfants qui ont été instruits qui se retrouvent de l'autre côté. C'est toujours des enfants qui n'ont aucun bagage, que ce soit par rapport à l'instruction même traditionnelle ou par rapport à l'instruction moderne qui se trouve de l'autre côté. Ceux qui les enrôlent deviennent automatiquement leur maître penseur.
Malgré sa proximité avec Niamey, la capitale nigérienne, la région de Tillabéri semble très isolée. Les services sociaux de base, comme la santé et l'école, sont quasi inexistants. Face au sentiment d'abandon des populations, la HACP tente de rétablir la présence de l'État dans le Tillabéri. Elle soutient entre autres l'administration locale. Ce matin, c'est l'État civil qui se déplace dans un village. Des centaines de personnes sont venues faire établir leur carte d'identité.
Je suis venu chercher un acte de naissance. Acte de naissance avec carte d'identité. Chaque Nigérien doit avoir carte d'identité, acte de naissance. Si tu n'as pas de carte d'identité, tu n'es pas un Nigérien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. En cas de route, les routiers nous demandent des cartes d'identité. La police demande, l'armée demande. Vous avez passé un pont là qui est ici, là. On demande carte d'identité là-bas, là. Si tu n'as pas de carte d'identité, vous amenez 500 francs. 500 francs. Hein, vous me comprenez bien.
Et alors, vous donnez 500 francs à la police?
Ils donnent 500 francs à la police.
C'est normal, ça?
C'est que chez nous, ce n'est pas normal. Les 500 francs, là, ce n'est pas une anomalie normale. Ils cherchent pour toi. Vous me comprenez bien. Hein.
Moi, c'est Ramot Ibrahim Yakouba. Je suis la directrice du département prévention et gestion des conflits à la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Nous sommes là dans la commune pour faire établir 1000 actes de naissance et 1000 cartes d'identité nationale aux bénéficiaires de cette commune-là. Pour ce faire, nous avons mobilisé une équipe de la police. Nous avons aussi mobilisé des agents de la justice, avec à leur tête le président du tribunal du ressort. Nous avons aussi le directeur départemental de l'état civil avec son équipe. Tout ce beau monde-là, ainsi que la sécurité, est là pour assurer le déroulement du processus.
En quoi délivrer des cartes d'identité, assurer ce travail d'état civil, ça aide à sécuriser un territoire?
La pièce d'état civil, c'est surtout ce lien qui relie le citoyen à son état. Cette fibre patriotique-là, l'acte d'état civil le matérialise. Le deuxième avantage, c'est que cet acte qui sera délivré, ce sera quand même un outil qui est nécessaire à la vie courante du citoyen. Ça va lui permettre de circuler librement sur toute l'étendue du territoire et même, je peux dire, de l'espace CEDEAO. Ça permet aux citoyens de se faire enregistrer pour souscrire à un prêt, bénéficier de la carte d'électeur. C'est vraiment un outil indispensable à la vie du citoyen quoi, aujourd'hui.
Rappeler aux Nigériens qu'ils sont des citoyens, mais pas seulement. Établir l'état civil de chacun présente aussi des avantages sécuritaires, comme l'explique ce magistrat.
L'acte d'état civil permet d'identifier la personne afin qu'elle ne soit pas classée parmi les personnes qui sont dangereuses ou qui sont susceptibles d'être des terroristes.
Il n'y a pas écrit sur la carte d'identité terroriste ou citoyen honnête?
Oui, il n'est pas écrit, madame, mais c'est un élément d'identification. Aujourd'hui, ceux qui tombent dans cette perversion d'insécurité, c'est des gens qui ne sont pas identifiés, qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas d'acte d'état civil. Donc cet acte d'état civil, il permet d'identifier la personne et du coup, on peut facilement la cerner, on peut la surveiller, on peut savoir tous ses mouvements.
Bon, on repart au tribunal?
On repart au tribunal, c'est pas par là.
Pour ne pas rester trop longtemps sur place, nous devons reprendre la route.
C'est-à-dire à partir de Goudron, là.
Ouais.
Tout au sud, là, c'est l'insécurité.
Le goudron qu'on va prendre?
Le goudron qu'on va prendre, là. Il vient jusqu'au goudron, là.
Mais d'un côté seulement du goudron?
D'un côté du goudron. Parce que, tout simplement, l'accessibilité qui pose problème chez eux. Mais ils s'arrêtent derrière les dunes. Vous voyez, non? Derrière toutes les dunes, là, ils s'arrêtent là-bas, ils posent leur moto, ils viennent dans les villages. Ils cachent leurs armes, ils viennent comme ça en civil. Actuellement, qui c'est s'ils sont là? Tu vois? Oui, c'est comme ça.
Nous arrivons dans une localité reculée, à une soixantaine de kilomètres de Niamey. Un curieux tribunal s'installe dans les locaux d'une école. C'est une audience foraine. Le président du tribunal d'instance est venu arbitrer un litige champêtre. Depuis 4 ans, deux communautés se disputent la propriété d'un champ.
Donc, l'audience est ouverte vers vos enfants. Demande-lui, dis-lui qu'il est demandeur dans ce dossier. Il est de Koutim Gourmantier. Dis-lui qu'il me donne les détails pour déterminer sa propriété sur le champ.
Tout le village est venu assister à l'audience.
C'est mon père même biologique qui est ici.
Qui est le monsieur qui est en train de témoigner là?
Qui est en train de témoigner, qui est au tribune ici. Moi, je n'ai jamais assisté à ce genre de choses. C'est la première fois que je suis soulagé parce que ça doit être une justice claire dans la transparence.
Si le juge ne s'était pas déplacé, comment est-ce que cette question aurait été réglée?
S'il n'y a pas ça, donc on risque la violence.
Ça en était à ce niveau de tension?
Oui, ça a été à ce niveau. Ça arrive souvent, oui. Ça arrive souvent vraiment, ce genre de conflit. Parce que des fois, nous faisons même la justice nous-mêmes.
Et c'est exactement ce que le président du tribunal d'instance est venu éviter. Car ces règlements de compte communautaires font souvent le jeu des groupes armés qui se substituent parfois à la justice régalienne.
Quand dans une société, il y a des conflits intercommunautaires ou même souvent au sein d'une même famille et que la justice ne peut pas intervenir, cela du moins déchire le tissu social. Vous prenez par exemple le litige champêtre. Depuis 3 ans que nous avons pris service, aucun dossier n'a été réglé. Aucun dossier. Ce sont les mesures conservatoires, le même qu'on a reconduit pendant 3 ans. Et les gens en ont ras-le-bol et ça risque en fait d'amener aux affrontements. Alors, ces audiences viennent à point nommé parce que ça amène une quiétude sociale au sein des communautés. Parce que avec l'insécurité s'ajoutent les conflits intercommunautaires. Là, ça va être le comble pour le pays.
La mission n'a pas encore transmis son rapport.
Restaurer l'autorité de l'État, c'est donc restaurer ses institutions, mais les populations ont encore du mal à voir les fruits de ces efforts. À la mairie de Wallam, un conseil de sécurité se tient. Le préfet, les maires, les chefs de village, les représentants de l'armée, de la police, de la gendarmerie et de la garde nationale sont là. La société civile est invitée. Après les massacres de Tchomabango et Zarundarei, l'émotion est forte. Certains villageois demandent à pouvoir prendre les armes pour se défendre.
Voilà, la situation est grave, puisque vous attendez toujours des attaques perpétrées par les bandits. Et ils ont fatigué de payer. Trop, c'est trop. Toujours, ils viennent prendre l'impôt, les animaux. C'est trop, puisque le nord, là, il n'y a rien. L'État même a abandonné le nord.
Est-ce que vous seriez favorable à ce que les gens puissent, comme au Burkina Faso, avoir des armes et assurer leur propre sécurité?
Bon, ici, c'est interdit que les civils portent des armes. C'est interdit.
Mais est-ce que les gens le demandent?
Ils ont besoin, mais ils n'auront pas ça, puisque l'État a refusé.
Et vous trouvez ça bien?
Vraiment, c'est ridicule. Puisque si tu as ton arme, personne ne va venir t'obliger de payer un impôt. Avec le temps, c'est normal que les gens doivent avoir des armes eux aussi. Puisque les bandits ne les laissent pas tranquilles, vous voyez.
Femme de général.
Bonjour.
Ça
va bien?
Et vous?
Oui, moi je vais bien.
Nous avons exclu tout ce qui est milice, par principe.
Le général Mahamoudou Aboutarka, président de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix.
Parce que nous avons une histoire avec les milices. Depuis la rébellion Touareg, vous savez, nous avions à un certain moment pensé malin de faire des milices, d'autoriser des populations à s'armer contre les rebelles Touareg. Ça a été très mal fini parce que les milices sont devenues un autre problème. Si vous faites des milices, elles finissent par se transformer en milices communautaires, en milices ethniques. C'est pour cela qu'ici, l'État est responsable de la protection des communautés, pas les communautés elles-mêmes.
On a beaucoup parlé aussi, notamment dans le forum citoyen, du problème de la relation de confiance entre les populations et les forces de sécurité. On sent bien qu'il y a un doute. Comment on fait?
Il y a une difficulté compte tenu de l'étendue, compte tenu des effectifs de nos forces de sécurité intérieure. Et franchement, peut-être compte tenu du fait qu'on n'a pas très rapidement compris que la tâche centrale dans la lutte contre ce terrorisme insurrectionnel revenait aux forces de sécurité intérieure. À mon avis, dans un premier temps, on a mis trop l'accent sur l'armée en tant que telle, sur les forces de défense en tant que telle, et on a un peu négligé ce ventre mou de la sécurité inter-village, et nous sommes en train d'y remédier. Maintenant, vous savez, on dit que les populations ne collaborent pas. Évidemment, c'est très difficile pour les populations de collaborer si elles ne sont pas protégées. Si c'est le djihadiste qui est présent dans le village à longueur de journée et le militaire qui passe en coup de vent, à qui vous pensez que la loyauté des populations va aller? À celui qui peut faire mal. Donc ça, on le comprend très bien. C'est pour cela également qu'on veut davantage de mobilité de la part de nos forces de sécurité, mais surtout de la part de notre administration aussi, qu'elle s'occupe du sort des populations et qu'elles soient sur le terrain. Les gens vont collaborer avec celui qui les protège, avec celui qui s'occupe d'eux. C'est tout.
En attendant le retour de l'État, les populations du Tillabéri subissent le joug des hommes armés qui administrent la commune de ce maire.
La commune compte 43 villages administratifs et il y a une trentaine de villages qui ont payé la dîme exigée par les individus armés là. Et la population n'a pas le choix pour avoir la paix. Les individus armés là, ils ont un calendrier de passage. Ils vont, ils reviennent, ils circulent un peu partout dans la commune sans s'inquiéter. Oui, sans s'inquiéter puisque c'est une zone reculée, il n'y a aucune base militaire. La population autochtone, elle n'a aucune arme. Chaque fois, ils nous appellent, ils demandent l'assistance en tout cas de l'État. Mais si l'État est à côté de ces populations-là, je crois qu'ils ont le courage de rester.
Tillabéri, le Niger à la reconquête d'un territoire perdu. Un grand reportage de Gaël Lalex, réalisation Eva Piedel.